Le Seigneur soit avec vous.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment est-ce possible? Jésus mange avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, ceux qui ne connaissent rien à Dieu, ceux qui ne pratiquent pas la loi, et il est jugé. Dieu est jugé par la conscience humaine. Il ne voit pas qu'il est Dieu. Et c'est souvent comme ça, mes amis. Quand on est loin de Dieu, eh bien, on juge les autres. Parce qu'il nous faut quelque chose à quoi, ou quelqu'un à quoi nous comparer. C'est très important. Donc, comme je suis loin de Dieu et que je ne connais pas Dieu, et qu'il n'y a que Dieu qui peut me révéler mon péché, eh bien, je me crois cependant. Je ne suis pas si méchant, je ne suis pas si mauvais, mais je me crois cependant, comme il faut, moralement correct. Et alors, là, je juge les autres. Évidemment, parce que j'ai besoin de voir d'autres qui sont moins que moi pour me donner une valeur. Donc je juge les autres qui sont peut-être collecteurs d'impôts, prostituées, droguées ou seulement de braves gens qui m'entourent, quoi, ou de la famille. Et comme ça, je me sens quelque chose, je me sens plus qu'eux. C'est normal. Et c'est le signe que je ne connais pas Dieu. Parce que quand je connais Dieu, ah, là tout change. Je me découvre vraiment pécheur. Jésus, quand il s'invite chez moi, va me révéler mon péché. Là, il s'invite chez Lévi. Il mange au milieu des pécheurs. Et les pécheurs qui sont là, selon leur disposition, vont être touchés par la grâce de Dieu. À Mexico, il y a un travail que font des pauvres gens qui s'appelle pepenador, los pepenadores. C'est des gens qui, ici je ne sais pas comment on appellerait ça, c'est des gens qui vont chercher dans les poubelles et faire de la récupération. Vous voyez ? Eh bien Jésus, c'est ce qu'il fait. Hein ? C'est un grand pepenador. Hein, il va chez les pharisiens, il va chez les publicains, il va chez les prostituées, il va chez les mauvais, il va chez les pécheurs, il va chez les larrons, il va récupérer ce qu'il y a, et ces gens-là, ils récupèrent et ils font avec ça, ils récupèrent le carton, ils récupèrent le plastique, ils le vendent par ci, ils le vendent par là, enfin, ils font quelque chose avec ce que les autres ont rejeté, ce que les autres ont jugé, ce que les autres ont jeté, même en dehors de la société. Vous voyez, c'est ce que fait Jésus. Hein? Voilà. Notre orgueil, donc, c'est le premier point, ne va pas nous permettre de reconnaître Jésus. On ne connaît pas Jésus. Quand quelqu'un juge les autres et se croit supérieur, c'est pour ça que l'apôtre dira « Estimez les autres supérieurs à vous-même », eh bien, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu, même s'il va au culte, même s'il va à la prière, même s'il est, au service du mouvement ou de la paroisse. Il ne connaît pas Dieu. Quand on connaît Dieu, on se découvre pécheur. Ça, c'est classique. Eh bien, je vais vous donner cet exemple. Déjà, 22 ans après après 22 années d'écrit, à 47 ans, hein, Louisa disait à Jésus, elle disait, je suis toute pensative et je me sens si mal. Je vois l'état tellement misérable de mon âme. Elle avait 47 ans. Ça fait déjà 22 ans qu'elle écrivait. Et elle se voyait vraiment dans un état misérable, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait Dieu, le connaître lui. Elle connaissait Jésus, cette intimité avec Jésus de tous les jours. Vous voyez, ça c'est très important pour votre vie spirituelle. Et on retrouve ça chez Thérèse de l'Enfant Jésus, qui se découvre de plus en plus misérable. Mais un jour, elle dit, Eureka, j'ai compris. Plus je me vois misérable, plus je suis proche de Dieu. C'est ça. Donc elle était contente, enfin, de se voir de plus en plus misérable. Donc quand on se sent misérable, quand on sent ce poids, cette lourdeur de l'âme, quand on ne voit que son péché, on ne voit que, oui, que c'est... Que nos nœuds et que tout ça, eh bien réjouissons-nous. Ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Voyez, mes amis, hein, nous sommes sur le bon chemin. Le changement s'est effectué. Le changement s'est effectué. Jésus est venu. Il s'est invité chez les pécheurs, c'est-à-dire chez nous, et nous avons tac. Nous sommes entrés dans le changement. Nous avons une grâce de conversion. Nous avons découvert dans la lumière de Dieu notre péché, mais aussi sa miséricorde, son pardon, sa tendresse. Ça y est, on fait partie des petits. On fait partie des disciples de Jésus. Le changement s'est opéré. On ne juge plus. Il y a une vraie rencontre avec Jésus. Et on le verra dans notre prière, qui va être une prière fervente, une prière profonde, intime, journalière. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Le grand cri du pèlerin russe et de toute la tradition des chrétiens d'Orient, la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et qui vient de l'Évangile, voyez. Et il répète cette prière, le petit pèlerin, sans cesse pour chasser toute pensée, pour seulement être convaincu de sa misère et de l'infinie tendresse de Dieu qui vient chercher et sauver ce qui est perdu. Oui, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, comme il l'affirme ici, mais pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints de corps, mais pour les malades, ceux qui ont besoin du médecin. Alors, on continue. Quand on a découvert Jésus pécheur, on se voit petit. Je pense aujourd'hui, en ce samedi, à la Vierge Marie, bien sûr, qui est la plus petite, elle qui n'avait pas péché. Elle affirme quand même, dès le début de son Magnificat, son humble servante, la plus petite de toutes. Voyez, la plus petite. Celle pourtant qui était toute pure et toute immaculée. Je vous disais que Jésus est comme ces hommes qui vont chercher dans les poubelles. Bien, c'est ce qu'il fait. Et il dit un jour à Louisa, tu vois, je suis comme un roi qui sort de son palais et je vais dans le peuple, au milieu de mes enfants, et je vais chercher ceux qui sont vêtus de haillons, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont sales. Vous voyez, quand on se sent sale, quand on se sent pauvre, comme là Louisa disait, mon état misérable, je suis la plus misérable des âmes, je suis fatigué, je me sens si mal. Comme nous, bien souvent, on se sent comme ça, voyez. On se sent pauvre, on se sent sale, on se sent mal, on se sent pécheur, on se sent minable, on se sent... Eh bien, Jésus va, et là, il nous dit, mais attends, arrête. Tous ces haillons, si tu viens dans mon vouloir, si tu viens dans ma volonté, ils n'ont plus lieu d'être, ils sont pulvérisés, ils n'existent plus. Toutes ces pensées, ces retours sur nous-mêmes, sur notre misère et notre pauvreté, sont le signe que nous ne vivons pas dans le divin vouloir. Nous ne sommes pas encore dans la divine volonté, parce que si nous étions dans la divine volonté, eh bien nous rejetterions, nous ne ferions plus qu'à de ces haillons, puisque dans la maison de Dieu, nous serions revêtus de ses attributs, de sa grandeur, de sa beauté, de sa pureté, de sa sainteté. Mais quelquefois, on ne veut pas se défaire de ses oripeaux. On aime nos oripeaux. On aime nos oripeaux, voyez. Jésus est venu chez Matthieu, hein, et il va revêtir tous ses pécheurs de sa miséricorde, de son pardon, et après de toute sa beauté, de toute sa pureté, de son intelligence, de sa grandeur, de sa lumière, de son amour. Il y a un échange. Et dans la divine volonté, c'est très facile. Jésus dit, voilà, Je ne veux, j'amène les pauvres en haillons. Je vais les revêtir de mes habits comme un roi. Laisse-moi faire, brûle ces haillons. Ne fais pas cas de ces haillons, de ce vêtement de misère, de toute cette pauvreté qui t'enveloppe, hein, et qui te rend si laid, si laide, si puant, si moche. On s'en fiche. On s'en fiche. Si tu rentres dans la divine volonté, tout de suite on devient propriétaire de tous les attributs de Dieu. C'est extraordinaire. Comment ? Jésus dira à Louisa, c'est l'intention. Voilà. On rentre et je m'approprie, Seigneur. Et alors là, on peut dire qu'on a des mérites. C'est pareil, les mérites. Qu'est-ce que nous voulons mériter tant que nous ne vivons pas dans la divine volonté ? Ben, on ne peut rien mériter. On peut mériter nos petites bonnes actions, évidemment. On peut mériter, je ne sais pas, j'ai fait un acte de pauvreté par humilité. J'ai fait comme Saint François. Là, j'ai fait un petit sacrifice comme Sainte Thérèse. On peut imiter les saints. Déjà, Saint Jean de la Croix disait, n'imitez pas les saints, vous imiteriez leurs défauts. Hein ? Et puis, et de suite, et je fais ceci, je fais cela. Vous voyez, toutes ces choses, mais ça... Alors c'est des mérites, oui bien sûr, c'est des petits mérites humains, mais qu'est-ce que sont ces mérites en comparaison des mérites même du Christ, des mérites même de Jésus-Christ notre Seigneur et notre grand roi? Mais c'est rien, voyez comme on est. Alors tant qu'on est dans cette dynamique du jugement et tant qu'on ne s'est pas vraiment découvert pécheur, eh bien on essaye de mériter, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien, ça ne vaut pas un sou, à peine. Un dixième, un millième de sou, si vous voulez, bien sûr. Par contre, quand en entrant dans le palais du roi et que je me laisse revêtir de Jésus-Christ, revêtez le Christ, dira l'apôtre, et que là, évidemment, je me laisse nourrir par sa vie et je prends tous ses attributs, là je prends tous les mérites de la vie de Jésus depuis sa conception, sa vie cachée, tout ce qu'il a fait, ses pas, ses paroles, ses gestes, ses pensées. Et puis après, je prends les mérites de la vie de Jésus dans sa vie publique, depuis son baptême jusqu'à l'agonie, jusqu'à la croix. Et tout ça, je le fais mien, puisqu'il a vécu sa vie pour me la donner. Hein, il nous donne sa vie, hein, on le dit tout le temps. Mais c'est ça, je prends tout ça, hein, comme richesse, et je permets à Jésus, dans mon cœur de Dominique, dans mon cœur, toi, dans ton cœur, toutes ces choses reprennent activité, reprennent vie, et le Père voit en moi Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, puisque je prends sa vie, je prends toute sa vie, et je la fais mienne, et alors là, je suis revêtu du Christ, non seulement, mais en plus... J'ai tous les mérites de Jésus. Je n'offre plus mes petits haillons, mes petites misères ou mes petits sacrifices. J'offre Jésus. J'offre Jésus. Vous comprenez ? J'offre Jésus au Père. Comme vous allez le faire tout à l'heure quand vous allez communier. Nous offrons Jésus au Père. Et voilà. Et bien c'est ça, vivre dans la divine volonté. Dans ma volonté, tu trouves ta demeure, dira Jésus à Louisa. La divine volonté devient le temple de l'âme. Nous vivons, voyez, dans le vouloir divin. Nous vivons dans toutes ces merveilles, dans toutes ces choses, dans tout cet agir de Dieu qui est, comme il le dira aussi, toujours en acte de se donner. Tous les mystères de Jésus sont toujours en acte de se donner, sont toujours en acte, ils sont vivants, ils sont là, ils sont présents, ce n'est pas du passé. Hein, avant moi, il était, dira le Baptiste demain à la messe de dimanche. Hein, tous ces mystères, ils sont là pour se donner à nous. Eh bien, disons, pour terminer, comme la petite Thérèse déjà l'avait senti, eh bien, je prends tout. Je prends tout. Amen.